Femme.
Je crois à l'égalité, point barre, l'égalité.
Femme.
La démocratie, le droit des femmes, le droit des enfants ne peuvent survivre que si on est engagé.
Oser, c'est laisser parler son cœur.
Vous êtes formidable, il y a intérêt à vous faire confiance parce que vous êtes suffisamment formidable pour y arriver.
Dopamine, un podcast by Yuan.
Bienvenue dans Dopamine by Yuan. Je suis Claudine Matt et aujourd'hui, je vous reçois dans le podcast des femmes inspirées. Dans ce podcast, vous découvrirez des femmes qui ont choisi de s'engager pour les autres, actives, généreuses et brillantes, prêtes à vous transmettre leur énergie. Les écouter, c'est recevoir une vraie dose de dopamine. C'est avec Yuan, la plateforme de formation engagée pour la réussite des femmes, que je vais à leur rencontre. Dopamine est réalisée avec AirZen, la radio 100% positive, en partenariat avec Cultura, qui nous fait vivre et aimer la culture. Prête à libérer votre dopamine? C'est parti! Comme vous le savez, ce podcast met à l'honneur les femmes qui s'engagent pour les autres et qui y mettent tout leur cœur et toute leur énergie vitale. Aujourd'hui, nous partons à Bordeaux rencontrer une figure de la politique locale, mais pas que. Elle s'appelle Nancy Traoré. Nancy Traoré est militante, membre active d'un collectif de femmes issues de la diaspora africaine. En Aquitaine, elle est administratrice d'Emmaüs et gardienne de prison, où elle organise des défilés de mode pour les femmes, entre autres. Mais elle est aussi 6 fois mère de famille. Mais où trouve-t-elle toute cette énergie? Une chose est sûre, Nancy Traoré a la générosité dans la peau. Elle a toujours eu le sens de l'autre. Petite, elle militait déjà pour les droits des jeunes filles dans son pays, la Côte d'Ivoire. Fidèle à ses racines, elle partage sa vie entre la France et son pays d'origine, marqué par une guerre qui a décimé toute sa famille. Là-bas, elle agit sur le terrain, que ce soit pour l'éducation des femmes, afin de limiter les grossesses précoces et de mieux contrôler la natalité, qui est un vrai problème en Afrique, et également auprès des cultivateurs qu'elle accompagne dans leurs pratiques agricoles. Nancy nous emmène dans cette Afrique qui n'est au fond jamais bien loin de nous. Cette Afrique qui nous renvoie à nos origines et fait des solidarités humaines une évidence. Ce qu'elle entreprend, c'est avec l'énergie du cœur. Je l'ai rencontrée pour Dopamine et cette rencontre m'a fait du bien. J'espère vous aussi.
Bonjour, je suis très ravie d'être avec vous ce matin. Pour moi, c'est une grâce de partager ces moments avec vous. Donc, en Afrique, on m'appelle Oina. Oina qui veut dire, dans la langue Dida, qui est du sud de la Côte d'Ivoire, la bienvenue, celle qui apporte le bonheur, celle qui apporte l'espérance. Les sages de la contrée qui m'ont donné ce prénom-là par rapport au rapport que j'ai avec eux, par rapport au contact. Donc, voilà ce que ça veut dire, Oina.
Tu es celle qui apporte le bonheur.
Le bonheur.
Voilà. À qui?
Mais à tout le monde, je veux dire au monde entier, à mes amis, à mes contacts et à tout le monde en fait.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours, sur ton histoire personnelle? Tu es née en Côte d'Ivoire. Comment petit à petit les choses se sont mises en place pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être depuis avant ton départ de la Côte d'Ivoire à la France?
Effectivement, je suis d'une très très grande famille. Hein. Je suis d'une famille de 24 enfants, et c'est ma mère qui nous a tous élevés. Et donc, on a pris l'habitude d'être ensemble, de partager nos moments ensemble, et on a été tous scolarisés. On a eu la chance d'avoir un père qui était fonctionnaire, une mère qui était agricultrice, mais qui était une femme de caractère. Et je crois que l'investissement ou l'engagement qu'on a est né avec nous, parce qu'on a toujours été avec d'autres personnes, c'est-à-dire des cousins, des nièces et tout ça. Et très petite, je me suis investie dans le combat des femmes. Donc, c'est parti de l'excision. J'avais la chance d'avoir une tante qui travaillait au ministère de la Femme. Et donc, au détour d'un partage, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on excisait les femmes? Est-ce qu'il y avait une vraie raison? Et elle m'a dit, écoute, c'est une bonne question. Je crois qu'on va partir dessus et on va militer pour que ces choses-là s'arrêtent. Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé la stratégie. On n'est pas allé contre les exciseuses, mais on a essayé de leur expliquer le mal que ça faisait aux femmes. Donc, si vous voulez, c'est le début de mon combat pour la femme, en fait. Et puis donc, étant née dans une fratrie de 24 enfants, 18 filles et donc 6 garçons, on a toujours eu à la maison des amis, des frères, des cousins. C'est ma mère qui nous a tous élevés, pardon. Et pour moi, il était hors de question de ne pas participer à ou accompagner les gens dans leurs difficultés ou dans leur bonheur. Donc, j'ai toujours été, on va dire, je suis même incapable de vous dire comment c'est arrivé, mais c'est, pour moi, c'est en moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu. Et mon arrivée en France, au départ, je ne voulais pas parce que je voulais juste faire la navette. Et puis, vous savez, quand vous êtes prédestiné à quelque chose, il y a eu la guerre chez moi. Ça a commencé en 1999. Et c'est de là qu'est partie, en fait, ma décision de m'installer en France et de venir aussi avec mon homme et continuer mes études et faire d'autres choses.
Donc, l'arrivée en France, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Donc, j'arrive en France, je ne viens pas directement sur Bordeaux. J'ai des aînés qui sont sur Bordeaux, j'ai une qui est sociologue. Donc, qui enseigne à l'université ici, et la deuxième est esthéticienne coiffeuse. Et donc, j'arrive, donc je commence par la Guyane, parce que je voulais retrouver ma forêt, je voulais retrouver un peu. Donc, je pars en Guyane. Mais bon, je voulais continuer mes études, sauf qu'en Guyane, pour pouvoir, comme j'ai un master 2 en droit des affaires, on m'a dit non, si vous voulez continuer les études, il faut aller plutôt en métropole. Donc, j'étais coincée. Après, donc, je pars aux États-Unis, j'avais l'intention de m'y installer, mais non, c'était trop loin de l'Afrique. Donc, j'ai dit bon.
C'est difficile de quitter l'Afrique, justement, pour venir en métropole ?
Vous savez, moi, je me considère comme une citoyenne du monde, mais ce n'est jamais facile de partir de là où on est. Parce qu'on a nos racines, on a nos réalités. Mais moi, je ne m'interdis rien, en fait. Je me dis, on peut créer son bonheur partout où on est. On n'a pas besoin de le poursuivre. Donc, je suis ici, je ferai mon bonheur là. Je suis ailleurs, je ferai mon bonheur là-bas. Donc, je n'ai vraiment pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je repars souvent en Afrique. Je sais que on a besoin de moi et autant je peux être utile ici, je peux aussi être utile en Afrique.
Il y a une petite, qui est plutôt une grande histoire d'ailleurs, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, que vous décrivez notamment dans une conférence TEDx où vous parlez de cette expérience du pardon que vous avez faite, qui est liée à une rencontre avec un chef de guerre de votre pays. Est-ce que vous pouvez en 2 minutes replacer le contexte et puis nous raconter ce qui s'est passé là à ce moment-là entre lui et vous ?
Effectivement, vous savez, mon pays a été victime de guerre. On a eu des périodes qui n'ont pas été faciles pour nous. Et puis ma famille, il y a eu 19 membres de ma famille qui ont été exterminés. Ils sont rentrés dans le village, ils ont mis le feu, ils ont tué les gens à la machette et tout. Et moi, étant en France, je repartais, mais je repartais pour me venger. Je me suis dit, c'est inadmissible qu'on tue des innocents qui ne sont pas ni politiques, ni... voilà. Et moi, je partais vraiment pour me venger. Donc, j'arrive à la capitale et puis j'avais une seule envie, c'est de partir dans ma région, qui est donc la région des 18 montagnes, la région de l'Ouest, pour rencontrer ces personnes-là. Et puis, j'ai prié pour les rencontrer, en fait, parce que je voulais comprendre beaucoup de choses. Je ne savais pas comment j'allais agir, mais j'avais besoin de les rencontrer pour peut-être faire mon deuil, mais aussi comprendre beaucoup de choses. Et c'est en partant, parce que c'est à 600 km de la capitale, J'ai constaté réellement les dégâts qu'une guerre peut faire. Parce qu'il y a des villages que j'ai connus depuis toute petite qui ont disparu. Et pour moi, c'est des villages dans lesquels on s'arrêtait pour discuter, pour acheter des fruits et tout. Ça a été... plus on avançait chez moi, plus vers mon village, plus j'avais vraiment une pression. Et là, on arrive au dernier corridor, hein, c'est-à-dire le dernier barrage pour rentrer dans mon village. Et là... Le gars du corps me dit, c'est le chef de guerre. En fait, c'est lui qui a mené toute la guerre qui s'est faite dans l'Ouest, chez nous. Et donc, je m'assois dans le véhicule et puis à l'instant même, je ne sais pas comment je vais agir, comment réagir. Et donc, je vois les rebelles qui viennent vers le véhicule et qui me disent de descendre. Donc, je ne voulais pas obéir. Parce que j'avais déjà quelque chose en tête et j'étais plutôt dans une position de vengeance. Donc, je ne savais pas quoi faire. Enfin, bref. Et là, après, le chef de guerre, il vient parce qu'il a vu qu'il y avait des échanges entre ces éléments et moi. Et donc, il avance. Et quand je le vois, tout de suite, j'explose, en fait. Je lui demande pourquoi, en fait. Pourquoi toutes ces guerres ? Et il a vu ma détresse. Il a vu ma détresse parce que quand je l'ai vu venir, j'ai vomi en fait. C'est-à-dire que toute la haine, en tout cas c'est comme ça que moi je me l'explique, toute la haine qui était en moi est sortie parce que, comme je le dis souvent, mon cœur est assez petit pour garder de la haine. Donc je préfère garder l'amour, mais il faut que les choses sortent. Et il a vu ma détresse, c'est-à-dire que il était armé, ils avaient les Kalachnikov et tout. Il avait la possibilité soit de m'abattre, soit de m'écouter. Et je crois que Dieu a fait en sorte qu'il m'écoute. Et j'ai vu ce monsieur qui était très grand, barbu, et avec son arme, il était devenu tout petit devant moi. Comme s'il se soumettait à ma pensée. Il était devenu tout petit et il s'est senti, en parenthèse, obligé de m'expliquer pourquoi il a fait cette guerre. Et finalement, c'est lui que je prenais pour un ennemi, en fait, pour quelqu'un de monstrueux. Je l'ai pris en pitié et j'ai compris qu'il était autant victime que moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Et donc, j'ai échangé avec lui et il m'a dit... Et je lui ai demandé, est-ce que s'il avait l'argent dont il avait besoin pour repartir chez lui, il le ferait? Il m'a dit oui. Donc, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et je lui ai dit de me promettre que plus jamais dans sa vie, il allait tuer quelqu'un. Et il me l'a promis. Donc, voilà.
Oui, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que les personnes qui s'engagent dans les guerres, souvent, ce sont des gens à qui on promet de l'argent.
Exactement. C'est-à-dire, il est venu du pays voisin. On lui avait promis l'équivalent de 350 euros par mois. S'il faisait la guerre, comme c'était lui le chef des guerres, donc il avait tous les avantages. Il allait être installé dans une grande maison, il allait avoir sous ses ordres environ une centaine d'éléments et qu'il allait guider. Et qu'à la fin de la guerre, il serait revenu en Côte d'Ivoire, s'installer avec sa famille. On lui promettait une belle vie. Donc il était autant victime que nous, en fait. Mais en vérité, il a compris qu'il a beaucoup tué, mais en vérité, il ne voulait pas le faire, selon ce qu'il m'a dit. Et moi, je crois. Donc, ils sont autant victimes que nous. Et donc, finalement, j'ai compris qu'il ne faut pas forcément avoir des préjugés des fois. Il faut écouter les gens. C'est important, l'écoute.
Donc, vous, Nancy, vous êtes celle par qui le pardon arrive?
On va dire ça.
Et comment, avec cette fibre-là, vous avez pu vous mettre en action en France, justement, au service des autres? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui traduit justement cet engagement-là pour les autres?
Effectivement, j'essaie d'être utile partout où je suis. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon bonheur, je ne le poursuis pas, je le crée. Je suis surveillante pénitentiaire, donc fonctionnaire au ministère de la Justice. Et aujourd'hui, je travaille à la section des femmes depuis bientôt, on va dire, 12 ans. Et quand je suis arrivée dans cette prison, au départ, je n'étais pas partie pour être surveillante pénitentiaire. Je suis claustrophobe à la base, donc une claustrophobe qui travaille dans une prison allait comprendre quelque chose. Mais je crois que c'est Dieu, des fois, qui nous oriente dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand j'ai passé le concours de commissaire de police et que j'ai échoué, ma marraine m'a dit, tente tous les concours et on verra. Et une fois que tu as le pied dans l'administration, on verra. Et le premier concours qui se présente à moi, c'est le concours de l'administration pénitentiaire. Je me dis, mais je ne connais pas ce métier, je ne vais pas aller être en prison enfermée. Moi, j'ai besoin de ma liberté. Donc, j'ai besoin de bouger, de rencontrer les gens. Et donc, je passe le concours et puis je suis admise. J'ai dit non, je ne vais pas y aller. Donc, il y a trois vagues. Donc, les premiers par rapport au classement qu'on fait. Donc, on m'appelle pour rentrer à l'école de l'administration pénitentiaire à Agen. J'ai refusé. La deuxième fois, je n'ai pas voulu y aller. Et la troisième fois, je crois que je n'ai pas eu trop le choix. Ma marraine m'a dit, si, tu vas y aller maintenant. Et donc, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, étant claustrophobe, je rentre dans la prison. J'ai demandé à mon Dieu, il faut que quelque chose puisse me retenir si je dois faire ce métier-là. Et mon premier stage, donc à Bordeaux-Gradignan, je suis rentrée dans une prison et c'est le regard d'un détenu qui m'a maintenue jusqu'à maintenant. J'ai senti qu'il avait un besoin, j'ai senti la tristesse qui était en lui et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire et que je pouvais apporter quelque chose. Et c'est ce qui m'a menée dans la prison. Et depuis que j'y suis, j'ai commencé à la section hommes et après j'ai été affectée avec les femmes. Et c'est vrai que quand une femme rentre en prison, elle s'oublie un peu, elle oublie qu'elle est femme. Et donc, souvent, elles n'ont pas de visite, elles n'ont pas de... Contrairement aux hommes, hein, qui, quand ils rentrent, la famille continue de les accompagner, c'est-à-dire la femme va les voir, les enfants aussi. Mais quand une femme rentre en prison, c'est rare que leurs époux viennent les voir. Et donc, elles sont un peu isolées. Et donc, j'ai réfléchi, je me dis, il faut faire quelque chose. Donc, en accord avec mon administration, j'organise des défilés de mode, je fais du gospel, je leur apprends à faire des dessins, alors qu'à la base, je ne sais pas dessiner, mais bon, je leur dis de sortir le génie qui est en elles et je les vois dessiner et je leur traduis souvent des poésies africaines, voilà, plein de choses comme ça. Et vraiment, on a eu la chance récemment, là encore, on a invité Madame Balza, qui est donc la directrice des cabinets de la préfète, qui est venue nous voir et on lui a présenté ce que les filles faisaient avec du tricot. Donc après, on a fait un ballet et on a passé un bon moment ensemble. C'est pour faire prendre conscience aussi aux gens des réalités des femmes en prison. Et donc voilà, je fais plein de choses en prison. Dans mon quartier, c'est pareil. Il y a des femmes qui viennent d'ailleurs, donc il y en a qui ne comprennent pas forcément le français. Ils ont des enfants accompagnés à l'école. Donc je le fais. J'ai fait aussi du gospel dans les maisons de retraite. Hein. Je vais là où je sens qu'on a besoin de nous. Donc je fais du gospel dans les maisons de retraite, dans les écoles et voilà. J'essaye, comme ma sœur Marie-Laure, de connecter les gens. Voilà. Je suis une demi-wifi.
Sortir le génie qui est en elle.
Oui. Parce que chacune d'entre nous, chacun d'entre nous a un génie en lui. Mais ça dépend de notre histoire. Ça dépend de là où on est parti. C'est-à-dire, moi, j'ai pour habitude de dire, je ne juge personne. Parce que je ne connais pas l'histoire de tout le monde. Donc, il faut toujours donner la chance aux gens de montrer qui ils sont, de leur faire confiance. Parce qu'en prison, on rencontre toutes sortes de personnes. Hein. On rencontre des gens qui ont... Des criminels, on rencontre plusieurs personnes. Mais quand on va vers eux, avec un cœur pur, ils peuvent se confier à vous. Et il y a des choses que nous, on sait aujourd'hui que les juges ne sauront pas. Parce qu'on devient la confidente, on devient la psychologue, on devient la grande sœur, on devient la maman. Et récemment, mon plus beau cadeau que j'ai reçu récemment, c'est une détenue qui me disait, une détenue qu'on dit dangereuse, mais avec qui j'ai jamais eu de soucis, elle m'a dit, parce qu'elle m'appelle Maman Nancy, Tata Nancy, ce qui est interdit. Hein. Elle me dit, Maman Nancy, vous savez, j'aurais souhaité que vous soyez ma mère. Vous aurez été ma daronne, jamais je serai en prison. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, moi qui suis maman de 6 enfants. Voilà, c'est comme ça. J'essaye d'être utile et d'avancer.
Alors, sortir le génie qui est en chacun d'entre nous, c'est une mission que vous êtes confiée en France, mais... que vous continuez aussi à mener en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous faites quand vous allez en Côte d'Ivoire? Comment ça se passe, un voyage? Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous allez apporter? Est-ce qu'on peut avoir comme ça un récit, par exemple, de votre dernier voyage? Comment s'est passée votre rencontre avec les personnes sur place? Qu'est-ce que vous êtes venu leur apporter? Pourquoi vous y allez? Peut-être d'abord, on peut peut-être commencer par ça. Vous continuez à faire ces allers-retours dans votre pays. Pourquoi?
Pour vous dire la vérité, je fais beaucoup la navette entre la France et l'Afrique parce que l'Afrique, c'est mon sang, l'Afrique, c'est moi. La France, c'est ma patrie, c'est mon pays, autant que l'Afrique. Mais je me sens tellement investie d'une mission, c'est-à-dire faire en sorte que les hommes soient unis. Quand je dis hommes, c'est avec grand H, hein, pour pouvoir porter ce monde-là. Et l'Afrique a tellement de richesses, il faut juste un encadrement. Donc quand je repars en général en Afrique, je me fais un plan ici. Par exemple, j'ai été en 2021 avec des amis qui sont profs à la Sorbonne. On a travaillé sur les grossesses précoces en milieu scolaire rural. Ce sont des réalités que vivent les gens là-bas parce que vous savez, tout ce qui est sexualité est très tabou en Afrique. On n'en parle pas. Et les écoles ne sont pas forcément dans les villages. Donc, les jeunes filles, quand elles sont en classe de CM2, quand elles réussissent leur entrée en sixième, elles sont dans l'obligation de venir en ville pour pouvoir aller en sixième et continuer leur scolarité, sauf qu'elles n'ont jamais vécu en ville. Donc, les parents n'ayant pas les moyens parce que le café, le cacao ne se vendent plus comme avant, elles sont livrées à elles-mêmes. Et il y a des gens qui en profitent pour les aborder. Et voilà, je m'occupe là des jumelles qui se sont faites enceinter en classe de cinquième par le même monsieur. Et donc, les enfants, aujourd'hui, moi, je m'en occupe et les filles, je les scolarise. Donc, on a plein de situations comme ça. Donc, j'écoute les gens, j'écoute beaucoup. Quand je vais, je rencontre les sages dans les villages et je vois le problème important qu'on peut essayer de débloquer et développer pour pouvoir permettre aux gens d'avancer. Aujourd'hui, avec l'ancien directeur général de la décentralisation, on a été dans son village et justement, on a fait des conférences là-bas sur les grossesses précoces en milieu scolaire rural. Et comme il avait déjà commencé à organiser des jeunes, parce que lui, il est dans le développement local, il a commencé déjà à organiser les jeunes pour éviter que ces jeunes-là prennent la mer pour venir ici. On a des richesses naturelles. Donc, nous, lui, d'abord, il a pensé réunir ces jeunes-là pour un développement communautaire. Donc, ils ont des forêts, ils ont plein de plantations de café, cacao, qui sont abandonnées. Donc, nous, on leur donne les outils qu'il faut pour valoriser ces plantations ou pour créer d'autres plantations pour qu'ils puissent se prendre en charge et rester sur place. Parce que vivre en Afrique, c'est aussi extraordinaire que venir en France. Il vaut mieux rester sur place et développer ce qu'on a que de venir par bateau et puis mourir en mer. Donc, ces jeunes-là, on les accompagne. C'est une association qu'on a accompagnée, qui est maintenant en place, qu'on appelle les jeunes dynamiques et les femmes dynamiques. Donc, il y a pour mission de valoriser les ressources naturelles, de les développer et de se prendre en charge. Donc, c'est eux qui s'occupent aujourd'hui du reboisement, qui s'occupent d'accompagner des sages dans les hôpitaux en ville. Ils ont le DG donc d'Agodia Ilaza leur a acheté donc des petites motos. Donc quand quelqu'un est malade, on le transporte en ville et ils s'occupent, ils gèrent vraiment le village. Et donc j'ai été au mois de décembre 2022 avec des amis pour voir un peu, parce qu'ils ont fait du planting et aujourd'hui, on voit un peu le bénéfice de ce planting-là. Donc, ils sont en train de récolter le cacao, récolter le gombo, les haricots. Et donc, ils vendent une partie sur le marché et l'autre partie, ils se nourrissent. Ils scolarisent leurs enfants et voilà. Donc, la dernière action, c'est cela.
C'est ça qui est le plus important pour vous aujourd'hui pour l'Afrique, c'est de maintenir coûte que coûte les populations sur place et leur donner les moyens d'apprendre à exploiter leurs terres, leur territoire. C'est ça le plus grand défi pour vous, pour l'Afrique?
Oui, aujourd'hui, et je suis convaincue que c'est les femmes qui porteront ce projet-là. Les femmes qui porteront ce projet-là. Parce que c'est vrai, on a confié le monde aux hommes. On a vu ce que c'est devenu. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que les femmes se lèvent. Et quand je dis ça, ce n'est pas en opposition avec les hommes. Hein. Moi, je sais qu'il y a de la complémentarité. Hein. On ne peut pas rejeter les hommes. C'est ensemble qu'on peut faire les choses. Et comme je vous dis, ces jeunes dynamiques-là aujourd'hui, c'est eux qui gèrent le village. Mais il y a les jeunes dynamiques, il y a les femmes dynamiques. Et c'est les femmes qui portent ces projets. Voilà. Elles accompagnent les jeunes dans toutes les actions. Donc, on peut y arriver, mais rester sur place. Parce que venir en Occident, c'est bien, mais venir pour quoi faire? Parce que l'Occident aussi a ses réalités aujourd'hui, a ses problèmes. Alors que si on développe les richesses qu'on a sur place, on peut peut-être venir en vacances, pourquoi pas? Mais il n'y a que chez nous qu'on peut être heureux. Quand je dis chez nous, ça dit chez eux. Ils sont en Afrique, ils ont les ressources naturelles, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et nous, on ira vers eux pour partager nos expériences, pourquoi pas? Et donc, aujourd'hui, c'est ça. Mon plus grand défi aujourd'hui, c'est ça.
Pourquoi les femmes plus que n'importe qui d'autre? Qu'est-ce qu'elles ont en plus? Comment elles peuvent mettre en œuvre, justement? Comment elles peuvent se mettre en action et emmener les autres avec elles?
Parce que les femmes, c'est les porteuses de nation. C'est nous qui donnons vie et c'est nous qui entretenons cette vie-là. Et on a les capacités naturelles en nous pour faire des choses. Voilà. Une femme qui dirige un village, c'est pas pareil qu'un homme qui dirige. Parce qu'elle va pacifier, elle va écouter. On est dans l'écoute, on est dans la psychologie. On sait ce qu'il faut parce que c'est nous qui élevons les hommes. Vous savez? Et ça, c'est important. Moi, je dis, si quelque part le monde va mal aussi, c'est que les femmes ont élevé les hommes, elles leur ont tout laissé et elles se sont mises en retrait comme on le fait, surtout en Afrique. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses ensemble. Il faut que les femmes soient en avant parce que c'est nous qui avons le secret du monde et c'est nous qui pouvons faire avancer les choses. Et ça, c'est mon combat.
D'où vous vient ce sens de l'autre, ce sens de l'engagement? Vous avez raconté toute petite, vous étiez déjà engagée, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation ou de l'ordre de la culture familiale? Qu'est-ce qui fait que vous avez tellement envie de porter la voix des autres?
Je crois que ma croyance en Dieu fait beaucoup. Parce que je me dis, j'ai la chance de naître et d'être ce que je suis. Et donc, si je peux apporter ce que je suis aux autres, pourquoi pas? Mon énergie, je le puise en Dieu, je le puise dans les rayons solaires, je le puise dans mes enfants, je le puise dans mes amitiés. Et quand vous êtes positif, vous n'attirez que des gens positifs. Vous voyez? Et c'est, ma force vient de là. Et je me dis, on ne peut pas laisser quelqu'un au bord de la route. Si moi, j'ai la chance de me lever le matin, c'est une grâce. Et donc, pourquoi ne pas donner la main à celui aussi qui a du mal à se lever pour qu'ensemble, on puisse avancer? Et c'est ça mon combat. Je fais pas de miracle en fait. Je vais avec mon cœur quand je fais les choses. Je vais avec mon cœur et je me dis, Dieu fera. Et pour le moment, ça va, ça se passe bien. Et voilà, on avance. Et j'ai des personnes extraordinaires avec qui je partage ce que je suis. J'ai mon homme aussi qui m'apporte beaucoup parce que c'est important.
Ah, vous savez que ce podcast, il s'appelle Dopamine. La dopamine, c'est cette petite substance qui fait qu'on reste en vie et en action et qu'on a la pêche. Alors, c'est quoi votre dopamine? Vous nous avez dit votre mari, votre foi en Dieu, mais est-ce qu'on pourrait donner non pas une formule, mais quelque chose qui fait que le matin, bah justement, vous avez la pêche?
Ma dopamine, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la joie que je me crée moi-même, parce que je n'attends pas que l'autre soit mon bonheur. Je suis d'abord mon bonheur à moi-même. Parce que si vous octroyez votre bonheur à quelqu'un d'autre, le jour où il est malheureux, vous êtes malheureux. Alors que quand vous vous dites vous êtes vous-même votre bonheur et que votre croyance en Dieu est votre bonheur, quand vous levez le matin, vous vous levez avec le sourire. Et déjà, de se réveiller le matin, alors qu'il y a des milliers de gens qui n'ont pas cette chance-là de le faire, vous êtes une joie et vous ne pouvez que transmettre autour de vous votre énergie. Et il n'y a que ça qui est la vérité, en fait.
Est-ce que parmi toutes les causes et toutes les actions que vous menez, vous avez, vous gardez en vous justement un souvenir, une image ou un épisode qui vous nourrit et que vous allez réactiver comme ça dans les moments peut-être un peu plus mous? Est-ce qu'il y a une très belle histoire que vous avez envie de nous raconter justement, dont vous êtes peut-être particulièrement fière ou qui vous nourrit?
Mais vous savez, toutes mes rencontres en général me nourrissent, toutes les personnes avec qui je suis en contact me nourrissent. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'être en vie. Et quand je me lève le matin, je me dis, cette chance-là, il faut que je la saisisse. Faut pas que Non, j'ai pas le droit de faillir. Voilà, j'ai le droit de regarder droit devant moi et d'avancer dans la bonne direction. Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est tellement... Pour moi, c'est tellement une grâce tous les jours d'être là avec vous, en train d'échanger. Certaines personnes n'ont pas cette chance-là, et moi, je l'ai. Donc, c'est vraiment ma foi en Dieu. C'est comment est-ce que je me positionne dans la vie. Je ne pense jamais du mal des gens. Jamais. Je me dis, chacun d'entre nous doit être justifié. Et c'est comme ça que j'avance. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais pour moi, ça vient naturellement, c'est moi, c'est tout ce que j'ai autour de moi, c'est les gens que j'ai rencontrés dans la rue, à qui je fais un sourire, auxquels je fais un sourire, c'est mes parents, mon père qui était un homme extraordinaire, qui m'a transmis cette joie. Je ne l'ai jamais vu fâché, par exemple. Il a toujours eu le sourire, on a toujours accueilli des gens chez nous. Donc, les parents nous transmettent des choses, mais c'est à nous de reprendre le flambeau et de dire, voilà, on a la chance d'être là, il faut aussi qu'on donne la chance aux autres d'être plus que nous. Voilà.
Votre plus beau projet, là, pour les semaines, les mois à venir, racontez-nous.
Aider les jeunes dynamiques, parce que je voudrais que ce village de Gagoré soit un modèle pour les autres villes et pourquoi pas pour l'Afrique. Le développement communautaire, comment faire pour maintenir nos jeunes sur place pour éviter de les voir mourir en mer. Et ça, c'est mon combat le plus important. Parce qu'on a toutes les richesses qu'il faut pour se développer. Il faut juste encadrer les jeunes, leur expliquer les réalités pour éviter qu'ils prennent la mer. Et donc aussi, j'offre des bibliothèques aussi au village, parce que vous savez, c'est un village de près de 7000 âmes qui commence vraiment à se développer. Donc, travaillant avec Emmaüs, j'offre aussi des bibliothèques, des télés pour qu'ils gardent quand même la réalité avec l'Occident à travers ces télés. Donc, tous les mercredis, on présente un film et donc les enfants viennent regarder la télé dans la salle commune. Et voilà, moi, c'est mon combat aujourd'hui. Donc, comment faire pour que les jeunes restent sur place, leur donner l'encadrement qu'il faut, les moyens qu'il faut pour qu'ils se développent eux-mêmes et qu'ils se prennent en charge?
Alors concrètement, si on peut donner des exemples, donc il y a cette bibliothèque et oui. vous allez leur expliquer comment on cultive la terre, comment on fait quand il fait trop chaud, comment on fait pour gérer l'eau, qu'est-ce que vous faites concrètement avec eux?
Déjà, ils savent comment ces jeunes-là, ces jeunes qu'on accompagne, ces jeunes dynamiques et ces femmes dynamiques, savent déjà cultiver la terre. Mais c'est les moyens qu'ils n'ont pas. C'est par exemple acheter la daba qui permet de cultiver la terre. La daba, oui, c'est un instrument qui est fabriqué en Afrique pour creuser, pour enlever les mauvaises herbes et tout. Donc, c'est des éléments qu'il faut. La machette, voilà, pour pouvoir couper la forêt, pour pouvoir planter. Et donc, acheter aussi le riz et tout ça, les bitumages du manioc pour leur donner, par exemple, les légumes, pour leur permettre de planter et de récolter après, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les acheter. Donc ça, c'est le premier accompagnement, parce que la terre, ils la connaissent. Ils sont nés là-dedans, donc ils savent comment ça se passe. Mais le cacao ne se vendant plus, il faut diversifier la culture. Donc,
planter, par exemple, les tomates, les oignons, pour leur permettre de vendre ça sur le marché et acheter, par exemple, le riz, le manioc qu'ils produisent. Et garder quand même un fonds pour leur permettre, si quelqu'un d'entre eux est malade ou quelqu'un dans le village est malade, l'accompagner à l'hôpital. Une femme qui accouche, il faut des médicaments parce que là-bas, il n'y a pas d'assurance maladie. Donc, tout s'achète et il y a des uniformes. Donc, acheter les uniformes à la rentrée scolaire pour les enfants, par exemple. Là, quand j'ai été, il y a le directeur d'école qui me disait qu'il n'y avait pas d'électricité dans l'école. Et à partir de 16h déjà, 16h, 17h, ils sont obligés d'arrêter les cours parce que tout devient sombre. Donc, ça aussi, c'est un combat. Il faut pouvoir rencontrer des personnes qui peuvent nous aider à ramener l'électricité dans cette école-là. Donc, on est sur place. Des fois, on est confronté à des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, c'est pouvoir les accompagner en leur donnant les moyens. Parce que la terre, ils la connaissent, ils la cultivent, ils peuvent faire plein de choses. Mais leur donner un peu de moyens pour qu'après, ils puissent eux-mêmes se prendre en charge.
Et donc, cette action-là, vous la menez sur vos deniers personnels?
Exactement. Je n'ai aucune subvention. Je le fais par rapport à mes biens, par rapport à ce que j'ai sur place. Et mon homme m'aide beaucoup aussi. Et j'ai des amis, quand j'arrive, qui me donnent de l'essence pour pouvoir aller dans ces villages parce que c'est quand même assez éloigné. Et il faut prendre la piste. Et ce n'est jamais facile. Donc, j'ai toujours la chance d'avoir des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent à réaliser nos projets. Mais c'est vrai que je n'ai pas de subvention et je le fais de par moi-même.
Sacrée mission quand même. Sacrée ambition.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, il faut être fou pour pouvoir faire changer ce monde. Sinon, on ne bouge pas. Donc, voilà, j'ai foi en ce que je fais. Et je me dis, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas parce qu'on le fait pour la bonne cause, pour la cause des gens. Voilà, donc quand je pose une action, je me dis, je vais jusqu'au bout.
Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne justement de vous et de ce que vous faites?
Ce n'est pas de moi qu'on doit retenir quelque chose, mais c'est plutôt de la fusion qui doit se faire entre les gens qui sont connectés. Parce que moi, je ne suis qu'un être humain, demain je ne serai peut-être plus là. Mais l'action que je mène, c'est ce que les gens doivent retenir. Comment faire pour permettre aux gens d'être bien ensemble et de... Parce que si on s'aime, on doit aimer l'autre. Et si on aide l'autre, on ne peut pas lui faire du mal. Quand il est en difficulté, moi aussi, je suis en difficulté. Et je me suis toujours dit, le monde, c'est comme une toile d'araignée. Quand quelque chose se passe en Afrique, l'Inde est impactée. Donc, tout ce qu'on pose comme action dans le monde, tout le monde est concerné. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est l'Afrique, donc ça ne m'intéresse pas. Non, ce qui se passe en Afrique peut nous impacter ici en Europe. Donc, faisons les choses bien. Pour que ces fils-là invisibles puissent continuer, mais positivement, dans l'entraide, dans l'amour. Et l'amour est la première chose. Parce que si on aime l'autre, on ne peut pas lui faire mal. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on retienne, parce que moi, je ne suis qu'une personne. Je suis de passage, je suis la terre. Hein. Je ne suis pas éternelle. Donc, c'est les actions plutôt qu'il faut qu'on retienne. Et j'appelle la jeunesse à s'intéresser à ces choses-là. Parce que c'est bien d'aller en boîte, de danser et tout ça. Nous-mêmes, on l'a fait, hein, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on retient de nous aujourd'hui? Il m'arrive parfois, quand j'arrive dans un supermarché, je me dis, je suis passionnée de glace. Et oui, je suis une gourmande. Et quand je vais acheter une glace, je me dis, la glace fait 6 euros. Alors qu'avec ces 6 euros, quand je les convertis, ça peut nourrir peut-être 2 familles. Et donc, je me prive moins de cette glace-là, et je vous fais garder cet argent. C'est ça qui est la vie. Voilà, parce que moi, je sais que, voilà, c'est moi. Je peux me passer de ça. Ce n'est pas... Dans ma vie, si je ne mange pas cette glace-là aujourd'hui, je n'ai aucun souci. Alors que cette personne qui ne mangera pas pendant 2 jours, moi, ça me pose problème. Voilà. Et jusqu'à présent, ça va, j'avance. Vous savez, il est toujours important pour une personne de se cultiver, de continuer d'apprendre. Parce que le monde est tellement vaste, on a tellement de choses à découvrir. Et si nous, on a cette chance-là de pouvoir apprendre, pourquoi ne pas aider les autres qui n'ont pas ces moyens-là? Pourquoi ne pas accompagner ces femmes, surtout, qui n'ont pas ces moyens d'apprendre, à apprendre? Parce qu'en général, je prends le cas de l'Afrique, c'est les hommes qui sont priorisés, qui vont d'abord à l'école. C'est-à-dire, quand dans une famille, il y a cinq enfants, on priorise les garçons et les femmes ne vont pas à l'école. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, que ça soit ici ou en Afrique, parce qu'il y a des femmes aussi qui viennent d'ailleurs, qui sont en France et qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, on les oriente vers les structures qu'il faut pour qu'elles puissent apprendre. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elles vont s'émanciper. Il est important de savoir, des choses pour pouvoir, pouvoir s'intégrer dans la société dans laquelle on est. Donc, pour moi, l'apprentissage, à tout âge, on peut apprendre. Apprendre pour pouvoir transmettre. C'est ça le plus important. Quand on organise, par exemple, des grossesses précoces en milieu scolaire rural, comme je vous ai dit tout à l'heure, en Afrique, la sexualité est taboue. Donc, quand on explique le cycle menstruel d'une femme, à partir de quel âge elle peut avoir ses menstrues, à partir de quel âge elle peut prétendre avoir des rapports sexuels, on l'explique devant les sages, quelque chose qui est très difficile. C'est les accompagner, leur ouvrir, les ouvrir pour qu'elles puissent comprendre qu'il faut aller chercher ces informations. Et en général, dans les bibliothèques que j'emmène dans ces villages-là, les livres que j'ai, il y a toujours une partie réservée aux femmes sur leur corps, apprendre à s'apprécier, à s'aimer et pouvoir se découvrir. Parce que si je ne connais pas mon corps, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Et c'est comme ça qu'on rencontre plein de jeunes filles de 13, 14 ans qui tombent enceintes parce qu'elles ne connaissent pas leur cycle menstruel. Et c'est très compliqué. Donc l'apprentissage en Afrique aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ici, doit être une obligation. Quand on leur explique l'importance de l'apprentissage, je crois qu'on n'a pas de difficultés après. Parce que quand on ne leur dit pas les choses, elles ne peuvent pas savoir ce que ça fait. Et donc, les accompagner dans l'apprentissage et même prendre soin de son corps, se regarder et savoir... Voilà, tout ça, c'est important. C'est de l'apprentissage. Mais parce que chez nous, en Afrique, c'est tabou. Une femme qui ne sait pas plaisir, on dit non, ça fait bizarre. Mais il faut lui expliquer le bien que ça peut lui faire. C'est-à-dire, elle peut découvrir que, par exemple, elle a quelque chose dans le sein et aller se faire examiner par le médecin, par la sage-femme. Parce qu'on est en contact aussi là-bas avec des médecins, des sages-femmes, qu'on emmène dans ces villages-là pour pouvoir parler avec ces jeunes filles ou ces mamans. Parce que, voilà, c'est important. Important d'apprendre, d'aller vers l'autre et de pouvoir échanger avec l'autre. Parce que quand je ne sais pas grand-chose de l'autre, ça crée un blocage, en fait. Donc, il est important aussi d'avoir cette ouverture d'esprit-là à travers les livres, à travers l'alphabétisation, ce qu'on fait aussi, l'alphabétisation, hein, dans les villages.
Aussi, le lien qui est d'ailleurs, qu'il y a entre toutes vos actions, c'est l'accès à cette connaissance, que ce soit pour les femmes en prison qui ont besoin de, avant tout, de se reconnecter aussi à elles-mêmes, que ce soit quand vous allez en Afrique auprès des femmes et des populations pour leur apprendre à mieux cultiver, à s'adapter. Il y a peut-être aussi un fil rouge dans votre action qui est lié justement à ça, à la connaissance. Et d'ailleurs, vous-même, vous nous disiez combien c'était important pour vous et vos enfants que tout le monde ait accès à cette connaissance la plus aiguisée possible.
Exactement. Vous savez, mes enfants m'appellent la mère africaine parce que j'ai 6 enfants et j'ai toujours fait en sorte que l'éducation soit une priorité, l'instruction soit une priorité pour eux. Parce que j'ai toujours dit, moi je suis ce que je suis, mais je veux qu'ils aillent au-delà de ce que je suis. Parce que plus on est dans la connaissance, plus on avance et plus on comprend mieux ce qui se passe dans le monde. Et donc, pour moi, l'instruction est une nécessité. Surtout pour la femme qui éduque les enfants. C'est vraiment une priorité. Et c'est dans cette démarche-là que je suis. Mes enfants, j'ai de la chance, ça se passe très bien. Et elles ont fait, enfin, ils ont fait de grandes études. Aujourd'hui, 4 d'entre eux travaillent sur les 6. Et voyez, c'est vraiment une fierté aussi personnelle déjà de dire, voilà, je fais plein de choses. J'ai élevé seuls mes 6 enfants, mais j'ai réussi à leur donner une éducation. Même si j'ai été un peu dure, je le reconnais, mais il fallait ça pour pouvoir les faire avancer. Et aujourd'hui, ils le voient, ils me disent merci. Merci maman pour ce que tu nous as apporté, parce que tout ce que tu nous as donné comme conseil, on le voit aujourd'hui. Donc pour moi, vous savez, quand j'arrive en Afrique, je suis la maman. Hein, tout le monde m'appelle Oina, maman Oina. Et donc, étant maman, je transmets aussi ce que je sais et aux personnes qui m'approchent, aux personnes que je rencontre. C'est très, très important.
Merci chère Nancy Traoré. Merci d'être cette mère africaine pleine d'énergie, de bon sens et de cœur. Vous êtes en fait une princesse en votre pays, et cela, vous ne le dites pas. Mais la voix que vous portez pour nous ici et là-bas en Afrique n'a pas de prix. Nancy Traoré porte la valeur de la connaissance pour tous, qui est quelque chose de très important pour nous. L'importance de transmettre auprès des jeunes pour leur donner les clés de l'émancipation de ce grand pays en devenir qui ne demande qu'à grandir. Merci pour ce beau voyage dans cette Afrique pleine d'espoir pour laquelle Nancy Traoré nourrit de très très grands projets. Il nous a été donné de voir les fils invisibles que sont les liens qui nous unissent aux autres. même à l'autre bout de la Terre ou sur un autre continent. Nous sommes si heureux d'avoir reçu Nancy Traoré dans Dopamine, car oui, elle fait partie de ces femmes qui feront la révolution grâce à la force vitale qu'elles ont en elles. Et nous retiendrons, avant de nous quitter, cette magnifique parole. Les femmes ont le secret du monde. Dopamine est produit par Yuan dans les studios de RZN. Une production parrainée par Cultura et dirigée par Claudine Matt. Au montage, Clémence Philippe et Vincent Xelmès. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Yuan, www.yuan.fr.